Bien, eh bien, bonjour à tous. Je suis venu à la plupart des années à ces forums, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent. Mon seul droit à parler ici, c'est qu'effectivement, parmi les choses qui existent dans notre communauté à Ein Carême, il y a l'apostolat de rue, c'est-à-dire d'être présent dans la rue pour parler. Alors, il y a un prédicateur qui parle, puis là, autour de lui, des missionnaires qui parle à ceux qui s'arrêtent et qui, pendant que le prédicateur continue, généralement, a une conversation plus privée avec tel ou tel. Et donc, dans les nombreuses années où j'ai fait ça, il m'a été assez souvent donné l'occasion de parler à des musulmans, parce que c'est finalement eux qui s'arrêtent le plus volontiers dans une discussion religieuse, il faut bien le reconnaître, et d'en conduire un certain nombre jusqu'au baptême. Donc voilà ce que je pense, j'ai pu voir et de constater que finalement, d'abord souvent le Seigneur prenait les devants puisque beaucoup de ceux auxquels je parlais étaient déjà sur la piste et qu'ils avaient souvent été alertés par un songe, une vision, quelque chose qui leur avait donné le goût d'en savoir plus sur Jésus de Nazareth. Alors, si j'ai bien compris le thème de notre table ronde avec celui qui est à côté de moi, hein, c'est perspective pour la mission. Alors, qu'est-ce que je dirais sur ce thème? J'ai résumé mes réflexions en trois choses: prendre le bon axe, travailler et agir. Voilà. J'aurais pu ajouter prier, évidemment. C'est même la condition première. Mais enfin, vous en êtes convaincus. Alors, prendre le bon axe me paraît une question qui est plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'évangélisation avec les musulmans. Il y en a une plus directe, plus agressive, il y en a une au contraire tellement soft que on n'aborde jamais le fond de la question. Il y a bien des manières. Alors, à mon avis, il ne faut pas se tromper de créneau. D'abord sur l'islam lui-même. Je crois qu'il faut avoir une idée relativement claire de notre positionnement face à l'islam. Parce que l'islam, c'est beaucoup de choses. C'est une politique, c'est une religion, c'est une culture. Enfin, mais si on prend l'islam dans son fond, je crois qu'il faut toujours pouvoir dire que c'est à la fois une religion et ce que j'appellerais d'un mot chargé de sens, une idéologie. C'est-à-dire un ensemble de... Enfin, une vision close de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à attendre. Et autant la religion peut avoir par moment des valeurs qu'on peut pas nier, l'idéologie, elle est négative, elle est destructrice. Alors déjà, de pouvoir faire cette distinction me paraît essentiel, parce que de fait, on voit que les musulmans que nous rencontrons ne sont pas également des deux côtés. Inévitablement, il y a un côté d'idéologie, surtout chez les plus jeunes aujourd'hui, mais d'un autre côté, il y a une composante authentiquement religieuse qui est quand même là, souvent, pas toujours non plus, mais qui s'y trouve. Donc, je crois que la première chose, c'est d'arriver à savoir de quoi on parle et que ne pas confondre tout. Alors, vis-à-vis des musulmans eux-mêmes, le positionnement, il est très simple, parce que il s'agit d'avoir une très grande compassion pour leur situation, qui n'est souvent pas très facile, parce que ils sont souvent coincés entre, enfin, s'ils sont en France, ils sont souvent coincés entre les exigences qu'on fait peser sur eux, que le milieu exerce sur eux, parfois avec une véritable raquette pour leur attirer de l'argent, pour les formater dans le sens qui est souhaité. Et par ailleurs, ils aspirent à la tranquillité, à l'épanouissement personnel, parce que c'est ça la mode de l'Occident. Donc, leur situation n'est pas si simple, si facile. Et donc, je crois que la première chose, c'est cette compassion qui nous est nécessaire. Et ensuite, de parler à la fois à leur cœur et à leur intelligence. Qu'il ne s'agit pas seulement de raisonner, mais qu'il s'agit aussi, comme certains je vois faire souvent, comme j'ai essayé de le faire moi-même, hein, de leur montrer que le Christ répond complètement à l'aspiration de leur cœur et de le désir d'une religion d'amour, d'une religion qui mette en contact avec Dieu et qui ne soit pas seulement de crainte. Alors, il y a un autre positionnement qui n'est pas simple aujourd'hui, c'est se positionner face aux institutions d'Église, dont on sait qu'aujourd'hui, elles ont plusieurs attitudes, dont certaines ne sont pas très favorables à ce que nous voulons faire si nous prétendons évangéliser les musulmans. Hein, vous savez tous des exemples d'avoir été plus ou moins rabroué par des prêtres qui vous disaient « mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire, vous vous trompez complètement, c'est pas ce que dit l'Église ». Alors, je crois qu'il faut qu'on évite toute provocation inutile, mais que nous puissions toujours nous fonder sur ce que l'Église demande objectivement à travers l'enseignement des papes et même du Concile Vatican II. J'ai fait l'année dernière ici même une causerie sur Vatican II, montrant que ce que dit le Concile n'est pas du tout ce qu'on lui fait dire d'habitude, c'est-à-dire que toutes les religions se valent et qu'il n'y a pas à faire évoluer les gens parce qu'ils sont déjà très bien comme ils sont. C'est absolument pas ce que dit le Concile. Alors, donc, je crois que nous avons intérêt à ne pas chercher à polémiquer inutilement, mais à montrer qu'on est pleinement dans la ligne de ce que l'Église, dans sa voix la plus autorisée, dit. Alors, s'il y en a qui disent autre chose, tant pis pour eux, mais au moins ne pas nous bloquer en disant « aujourd'hui, l'Église rejette cette façon de faire ». Je pense que c'est pas vrai, d'abord parce qu'il y a de nombreux exemples contraires, mais surtout parce que nous pouvons nous appuyer sur l'enseignement, finalement, le plus officiel. Alors ça, c'était prendre le bon axe, c'est de mettre la boussole dans la bonne direction. Alors ensuite, travailler et agir. Alors travailler, je crois qu'il y a avant tout un travail intellectuel à faire qui est absolument nécessaire. Alors certains ici, à propos, dont La Fontaine dont on parlait tout à l'heure, certainement un exemple. Il y a le père Édouard Marie, il y a beaucoup d'autres qui ont fait des travaux tout à fait remarquables qu'il faut connaître. Je vous signale qu'il y a un petit fascicule qui vient de sortir résumant les positions aujourd'hui raisonnables sur l'islam, qui a été publié par Liberté Politique. Je pense qu'il doit être en vente quelque part qui est bien utile. Il est important qu'on sache des choses, qu'on ait approfondi la question, qu'on ne soit pas complètement ignorant sur le Coran, qu'on ait une petite idée de l'histoire du monde musulman depuis le 7e siècle et qu'on ait vent des courants actuels qui sont dans l'islam. Tout ça, ça évitera que pour nous, ça soit un grand ensemble un peu flou dont on parle comme de loin, hein, de pouvoir dire, il y a des textes, mais on peut montrer que ces textes, pour certains, n'ont pas été directement dictés à quelqu'un, mais qu'ils sont ajoutés progressivement au dépôt primitif et qu'il y a eu tout un travail de rédaction complexe derrière ces sourates qu'on présente comme tombées du ciel. Je crois que ça, c'est nécessaire et que sans polémique inutile, de savoir des choses un peu précises, de pouvoir, sur un certain plan, dire ça, c'est faux. Alors, il y a une vidéo de mon ami Olivier Bonassis qui s'appelle « L'islam est faux », dans lequel il y a un certain nombre, tout un argumentaire qui peut être bon de connaître. En tout cas, il faut travailler, ne pas se contenter des flous et générales, de pouvoir raisonner. Alors, on ne viendra pas forcément des spécialistes en islamologie, mais on peut au moins avoir une vision un peu plus précise de ces questions-là, parce que le propre des musulmans que nous rencontrons, c'est d'être extrêmement affirmatif, généralement, de dire les choses comme ça, et donc il faut pouvoir fissurer un peu souvent ce bloc en montrant que tout ce qu'ils affirment si facilement, en fait, n'est pas du tout conforme aux faits, aux réalités. Donc, il y a un travail. Il y a un travail aussi pour connaître notre foi. Parce que figurez-vous qu'on constate que l'islam a toujours grandi à l'ombre des méconnaissances du christianisme. Si le christianisme ait pu se répandre si vite en Proche-Orient, par exemple, c'est le fruit, il faut bien le dire, de la crise monophysite dans laquelle l'Église, enfin certains courants d'Église, donnaient du Christ une vision singulièrement déformée. Et aujourd'hui, les déformations, elles existent dans un autre sens. Donc, attention, nous avons à travailler notre foi. Ne croyons pas qu'il suffit de dire « Jésus t'aime », il faut aussi pouvoir dire « Quel est ce Jésus ? Qu'est-ce que nous savons sur lui ?» De véritablement historique, là, pour le coup, de solidement ancré dans l'histoire. Qu'est-ce que nous savons de l'origine des dogmes que nous professons, puisque vous savez que l'islam nous accuse d'avoir transformé Jésus au fil de l'histoire, ben, leur montrer que tout est déjà dans le commencement, même s'il a fallu le déplier au fil des siècles, parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps, on a déployé un dépôt qui était déjà là. Donc tout ça, il faut pouvoir le dire, pour ne pas nous contenter de bons sentiments. Donc, mon deuxième point, vous voyez, c'est travailler. Alors, chacun selon ses moyens. On ne va pas dire qu'il faut faire de très longues études pour autant, parce que si avant de commencer à évangéliser, on se croit obligé d'avoir lu toute une bibliothèque, on ne commencera jamais. Mais souvent, d'ailleurs, l'échange accélérera ce travail, parce qu'on se dit, ah, là, il y avait une objection quand même qui a été faite, je n'ai pas su me répondre, il faut absolument que j'avance, que je demande à quelqu'un de compétent ce qu'il faut en penser et que j'avance, mais que nous ne renoncions pas à travailler. Alors, agir maintenant, mon dernier point, vous voyez, je ne vais pas être trop long, je ne vais pas excéder le délai qui m'a été fixé, j'espère. À mon avis, il se décline en quatre moyens qui, me semble-t-il, j'ai vu à l'œuvre et qui ne sont pas forcément mis en place par la même personne. On n'est pas universel. Mais la première, c'est de trouver un biais de discussion. Et ce n'est pas difficile. Les musulmans, dans l'ensemble, aiment bien discuter sur les questions religieuses. Alors, même si on n'est pas forcément comme nous dans la rue en train de parler au coin de la rue et de monter sur un tabouret, mais si vous voulez nous rejoindre, vous inscrire volontiers. Mais il y a ici le père de Rocourt qui fait ça devant son église de Sainte-Claire à Paris, je vous garantis qu'il y a du monde qui s'arrête. Eh bien, c'est quand même un genre de beauté peut-être un peu spécial, mais la discussion, on la trouve facilement, on la trouve. On la trouve chez le commerçant, parfois, on la retrouve dans des endroits les plus inattendus. Hein. Et pour ça, d'essayer assez vite, d'abord de se positionner comme chrétien, mais comme chrétien ouvert, qui ne cherche qu'à connaître et à aider, et pas du tout en ennemi, en adversaire, mais de dire, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses que nous portons, nous les chrétiens, que vous ne connaissez peut-être pas assez ou que vous pourriez faire votre profit. Hein. Par exemple, c'est une approche relativement douce, mais qui permet de dire pas mal de choses. Et là-dessus, à mon avis, ne pas se laisser enferrer uniquement, parce que ça arrive vite, sur la question de la Trinité, en gros, c'est-à-dire... Le fils de Dieu, parce qu'on sait que les musulmans savent pas grand-chose du christianisme, mais ils savent au moins que c'est ça qu'il faut qu'ils refusent. Alors, c'est souvent très difficile de discuter, parce que au fond, ils croient savoir ce que nous croyons, et généralement, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. On a beau leur expliquer que le fils du père ne peut pas dire qu'un Dieu a couché avec une bonne femme, mais malgré tout, et ça revient toujours, et vous pouvez le dire 10 fois, ils ressortiront souvent ça la 10e fois. Par contre, ma petite expérience, c'est que c'est le thème du salut qui est souvent une meilleure entrée, qui est souvent le moyen de faire découvrir. Vous croyez quand même le monde, il y a beaucoup de choses mal qui se passent dans le monde, vous ne trouvez pas, alors que vous croyez que Dieu, il se résigne à ça ? Ah, oh ben non, hein ? Ben oui, mais comment sortir ? Alors, vous ressortiront peut-être que Dieu punit les méchants et récompense les bons, mais enfin, ce n'est pas totalement satisfaisant, parce qu'il y a des bons qui sont souvent éprouvés et des méchants qui triomphent. Alors bien sûr, on ne voit pas l'au-delà, mais quand même, hein, que Dieu laisse de gaieté de cœur tant de misère exister, ça pose une question, et un musulman comme un autre. Bon, et par l'idée du sauveur, du salut, d'arriver à l'idée qu'il faut un sauveur, et que ce sauveur, il ne se contente pas de rappeler la loi, mais qu'il a pu prendre le plus dur de l'espérance humaine pour y faire monter un acte de parfaite adoration à Dieu, voilà, des choses qui sont audibles par un musulman, à mon avis. Alors, ça, c'est le niveau du dialogue, du contact. Et ça, il faut pouvoir le faire, essayer d'accrocher le contact comme on peut, dans la rue ou ailleurs. Mais ensuite, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait lieu d'échange qui puisse exister, des lieux relativement neutres où on puisse parler, parce que souvent, même dans la rue, ils craignent d'être vus, quoi. Ils craignent d'être reconnus s'ils parlent trop longtemps avec des chrétiens. Donc, un lieu qui soit encore relativement neutre et qui permette des échanges. Ça peut être un café ou ça peut être un hall de gare. Mais enfin, à mon avis, il est important pour qu'ils s'ouvrent davantage, qu'il y ait souvent un sas, enfin, avant qu'on les amène dans des lieux d'église proprement dit, pour leur faire assister à une messe, pour participer à une prière. C'est souvent important qu'il y ait une sorte de lieu neutre où on puisse donner rendez-vous, qu'ils puissent partir comme ils veulent, ils ne sont pas retenus, qui permettent des échanges. Et puis là, d'attendre, d'espérer ce moment où ils feront le premier pas. Alors là, j'ai pas de schéma type, évidemment, mais souvent, donner un évangile, de proposer d'en reparler, lisez cet évangile, puis on en reparlera ensemble. Enfin, c'est souvent là la découverte, la stupeur de découvrir l'évangile. Alors, il existe des évangiles en arabe, maintenant très accessibles, qu'on peut donner, ou comme ils ne parlent pas tous arabe, loin de là, évidemment, dans une langue européenne, évidemment. Alors, il ne faut pas méconnaître que même si la sympathie commence et le cœur commence à bouger, c'est encore un saut fantastique qu'il faut faire, parce que pour beaucoup, il va falloir se positionner face à un milieu. Et donc, on voit qu'au début, c'est ça qui pose la difficulté, c'est de s'arracher en quelque sorte à un milieu et à des relations, et à de la famille, et à tout ça. Et on comprend que certains, à la limite, nous demandent même s'ils peuvent venir habiter carrément avec des chrétiens, quoi, pour pouvoir ne pas s'affronter tout le temps avec leur voisinage. Et je crois que là, des solutions ont été cherchées pour trouver des logements, trouver des possibilités de vie communautaire, pas laisser seul non plus. Parce que l'islam est très englobant, mais quand on passe dans l'orbite chrétienne, nous sommes très individualistes. Nos communautés chrétiennes, c'est quand même pas la grande chaleur, souvent. Et donc, de trouver une manière d'avoir certaines vies communautaires, et ce qui n'est pas simple, parce que, évidemment, en grosse différence, donc c'est d'arriver à rendre ça possible, mais il faudra que nous soyons prêts à ouvrir. J'ai entendu quelqu'un qui venait de l'islam et qui nous disait, vous ne savez pas le mal que j'ai eu à tout simplement à déjeuner chez des chrétiens. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile de demander à habiter chez le pape ou chez le Dalaï Lama que de tout simplement me faire inviter, quoi, après la messe. Et c'est vrai. Donc voilà, agir, voilà quelques pistes que j'ouvre. Je vais m'arrêter là pour écouter mon éminent confrère. Et je m'arrête là dans ce que je voulais dire. Thank you.